Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien dans cette série mensuelle dédiée à la nutrition sportive co-créée avec mon cher partenaire NutriPure. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation et de fatigue, mais je vous fais un petit rappel quand même. Si jamais vous avez des idées de sujets à nous proposer, n'hésitez pas à le faire sur Instagram et notamment si vous avez envie de contacter les nutritionnistes qui travaillent pour NutriPure et que vous avez envie de faire un bilan, notamment pour progresser sur votre pratique sportive, on vous a mis tous les liens dans la description. Mais aujourd'hui, je suis avec mon ami Christophe Cario. Salut Christophe, comment vas-tu?
Eh bien bonjour.
Alors, on va parler d'un sujet qui est assez important et que moi, je vois notamment peut-être un peu plus en dehors de la sphère sportive, mais c'est les liens entre la fatigue et l'alimentation. Avant, peut-être pour qu'on pose un petit peu le contexte, je me permets de rapidement de te présenter. Tu es un ancien champion du monde de karaté. Tu as aussi accompagné pendant très longtemps des athlètes de haut niveau. Tu as écrit 24 livres, si je me trompe
26.
Pas. 26, disons toujours plus. C'est son record du monde. Et depuis 6 ans, tu as créé NutriPure, effectivement, une marque de compléments alimentaires dans laquelle tu accompagnes de nombreux athlètes de haut niveau à progresser, à performer via le biais de la nutrition. Petite question pour qu'on pose un petit peu le contexte de l'épisode du jour. Grosso modo, pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent ressentir de la fatigue après des repas ou tout simplement pendant qu'elles digèrent? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre corps humain pour qu'on puisse... qui fait que certaines personnes se sentent un petit peu fatiguées et d'autres moins, tout simplement.
Donc, c'est une question qui est un peu complexe, mais qu'on va essayer de simplifier comme d'habitude. Déjà, notre alimentation, ben, elle va nous apporter un certain nombre d'éléments nutritionnels qu'il va falloir digérer. Et les processus de digestion, ils vont demander de l'énergie. Donc, en fonction du moment où vous allez digérer vos aliments et en même temps effectuer d'autres tâches, notamment des tâches cognitives, il peut y avoir, entre guillemets, une sorte de conflit sur la priorisation des tâches de l'organisme. Est-ce que je dois dépenser beaucoup d'énergie à la digestion ou est-ce que je dois dépenser beaucoup d'énergie à la cognition? Donc c'est aussi ce qui peut expliquer déjà une première cause de fatigue autour de la prise alimentaire. Deuxième cause qui pourrait expliquer un petit peu les fatigues de certaines personnes, vous avez la charge immunitaire de l'alimentation, c'est-à-dire comment une alimentation va provoquer une activation du système immunitaire et donc de phénomènes d'inflammation à l'intérieur de l'organisme. qui dit augmentation de la charge immunitaire, dit encore une fois mobilisation de ressources énergétiques. Pourquoi ? Parce que votre système immunitaire, à partir du moment où il est activé, c'est qu'il a détecté une menace qui est plus ou moins importante ou grave pour votre organisme, un virus, une bactérie ou une lésion interne, etc., qu'il va falloir réparer. Et par voie de conséquence, il va octroyer beaucoup d'énergie aux globules blancs qui vont être mobilisés pour lutter contre cette inflammation. Donc si je déploie de l'énergie pour ça, ben forcément, j'en ai un petit peu moins pour la digestion. Ensuite, vous avez l'état de votre système digestif, c'est-à-dire comment la muqueuse de mon intestin fonctionne. Est-ce que il y a un fonctionnement optimal de cette muqueuse ? Est-ce qu'au contraire, cette muqueuse elle est perturbée ? Et auquel cas, là encore, ça peut être une cause de fatigue. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle l'équilibre glycémique, c'est-à-dire comment l'alimentation que vous venez de consommer va impacter votre glycémie sanguine, c'est-à-dire favoriser des pics d'insuline, des hypoglycémies réactionnelles, etc. Donc, il y a tout ce contexte-là qu'il faut prendre en considération quand on veut aborder, entre guillemets, le lien entre alimentation et fatigue.
Ok, bon, on va essayer de rentrer dans le détail sur chacun de ces sujets. Peut-être d'un point de vue pratico-pratique, est-ce qu'il y a certains types d'aliments qui vont être plus faciles à digérer et qui peuvent du coup aider un petit peu à réduire cette fatigue liée à la digestion, notamment peut-être le midi, lorsque on peut avoir une tâche importante à réaliser après le déjeuner, comme enregistrer un podcast par exemple.
Donc idéalement, ce qu'il faudrait, c'est consommer des aliments qui sont pas forcément très riches en graisse, parce que plus on va avoir des graisses qui vont être notamment des graisses saturées, qui sont contenues en général dans les viandes grasses, etc., plus la digestion va être alourdie, va être complexifiée. L'autre chose qu'il faudra surveiller, c'est l'apport en glucides. Plus il sera riche, plus on risque d'avoir en fait ce pic d'insuline et donc cette hypoglycémie réactionnelle qui suivra une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après, et donc qui générera une petite somnolence. Donc, peu de graisses, on va dire, qui sont difficiles à digérer. Donc, éviter les plats en sauce, éviter les frites, éviter les burgers, les pizzas à midi. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, les deux combinent des graisses saturées, beaucoup de graisses, et en même temps, des glucides dans des quantités relativement importantes. Voilà.
Ok. Donc, on va surtout plutôt chercher à éviter certains aliments plutôt qu'en privilégier d'autres.
Ouais, donc on peut, par exemple, utiliser une viande blanche, majoritairement des légumes, soit sous forme de crudité ou cuit, et une petite source de glucides. Ça peut être un demi-bol de riz, voilà, le quart de votre assiette qui contient soit du riz, du quinoa, peut-être une tranche de pain complet selon ce qu'on est en train de manger. Et puis un petit fruit, voilà, ça c'est une assiette typique qui permettra d'être bien digérée et qui devrait ne pas provoquer trop de fatigue postprandiale.
Ok. Bon, on a quand même vu que la digestion, effectivement, ça faisait consommer à l'organisme de l'énergie. On prône souvent pour les athlètes et pour les gens qui font beaucoup de sport de prendre des collations. Mais du coup, si je prends des collations toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, bah, je vais être en permanence en train de digérer. Est-ce que il y a une stratégie à adopter justement pour peut-être les personnes qui pourraient avoir peur justement dans l'idée de d'étaler leur alimentation sur entre les repas et d'utiliser la stratégie de la collation?
En fait, les collations ou la fragmentation de notre alimentation, elle a été mise en place pour pouvoir favoriser un apport calorique relativement important et stable dans la journée, soit pour des gens, voilà, comme des athlètes de haut niveau qui en avaient besoin, pour maximiser la fragmentation des apports de protéines, bien que maintenant on se soit aperçu que ça soit pas forcément obligatoire d'autant fragmenter les apports de protéines. Mais ce qu'il faut garder vraiment en tête de façon importante, c'est quelles sont mes capacités digestives. Si elles sont importantes, ben c'est pas grave que je fasse des repas qui sont relativement importants, parce que j'ai les capacités digestives pour digérer et absorber. Et en revanche, si j'ai un système digestif qui fonctionne pas bien, pour de multiples raisons, là, ça sera intéressant de fragmenter l'alimentation pour moins stresser le système digestif, et donc ne pas être trop fatigué, ne pas avoir trop de troubles, des ballonnements, des fermentations excessives ou des choses comme ça. Donc en substance, voilà à peu près. Donc tu as ça qui va intervenir. L'autre point qui peut être intéressant, c'est comment les gens également se sentent lorsqu'ils espacent leur repas. Tu as des gens qui sont capables, tu vois, de manger que deux fois dans la journée et qui n'ont pas de variation de la glycémie. Ils ont une glycémie qui est relativement stable. Et t'as inversement des gens chez qui ces processus glycémiques sont assez perturbés dès qu'il n'y a pas d'apport alimentaire. Et donc, chez qui ça va être important d'avoir un apport assez régulier d'alimentation. Et cet apport régulier d'alimentation, il va être aussi impacté par la charge d'entraînement que l'athlète va avoir, par la dépense énergétique que l'athlète va avoir. Les gens qui, par exemple, écoutent ton podcast et qui font du trail ou des sorties de vélo, savent que plus la sortie est longue, plus le trail est long, plus les fringales post en fait effort sont importantes, parce que le corps essaie de récupérer les apports énergétiques qu'il a perdus et qui n'ont pas forcément été comblés durant la course.
D'accord, très intéressant. Est-ce qu'il existe un petit peu des exercices ou toi des petits tests que les athlètes pourraient faire justement pour prendre mieux conscience de leur digestion et de leur capacité digestive, parce que tout est parti de là. Tu vois, certains athlètes peuvent des fois ne pas se rendre compte tout simplement quelles sont leurs capacités digestives. De quels signes annonciateurs ou de quels symptômes tu vas recommander d'observer ? Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être des petits tests avec certains aliments qu'on peut mettre en place pour se rendre compte de ses propres capacités ?
Là, on va rentrer dans le quart d'heure cacalogie. Donc, la première des choses, c'est à partir du moment où je vais consommer des aliments, est-ce que derrière, il y a un mouvement au niveau intestinal, donc l'envie d'aller aux toilettes. Donc, ça peut être soit l'association entre le fait de manger d'un côté et d'évacuer de l'autre. Donc, ça, c'est des signes, en fait, d'un bon fonctionnement digestif. Ensuite, ça va être la qualité des selles. Est-ce que vous avez des selles qui sont bien formées ou au contraire qui sont plutôt molles, fragmentées? Donc à chaque fois que c'est mou, fragmenté ou voire constipé, ben vous savez qu'il y a un problème au niveau de la digestion. Et ensuite, c'est la quantité de gaz que vous avez dans la journée. Si à chaque fois que vous consommez des aliments derrière, eh ben vous transformez en fabrique à but à gaz, là il y a un souci en fait de digestion. Donc ça, c'est vraiment des signes qu'il faut observer. Si à chaque post-repas, vous avez énormément de flatulences, c'est soit que le choix de vos aliments ne vous correspond pas, soit la quantité des aliments était trop importante pour les capacités digestives, soit que vous avez un problème véritablement de digestion. Alors ça peut être un microbiote qui est perturbé, ça peut être une muqueuse intestinale qui est enflammée, mais ça doit vraiment être vu par un diététicien ou un nutritionniste compétent pour faire un point là-dessus. Mais ça, c'est vraiment des signes avant-coureurs qui doivent alerter, un peu comme les inflammations articulaires ou tendineuses doivent nous alerter sur des changements dans notre entraînement. Ben, un excès de gaz, une perturbation en fait des selles. Tout ça doit alerter sur le fonctionnement de la digestion.
Bah écoute, on va parler effectivement du microbiote et de la flore intestinale dans un prochain épisode. Effectivement, c'était pas le quart d'heure le plus sexy, mais nécessaire, je pense. Et effectivement, des fois, il faut aussi savoir s'observer. Et ça passe aussi par là, par nos propres déchets. Quel conseil tu peux donner aux athlètes qui vont rencontrer des problèmes de digestion pendant la pratique sportive et aussi pendant la compétition? Alors ça peut être lié peut-être un peu plus au stress aussi, mais j'entends pas mal d'athlètes qui vont rencontrer vraiment des problèmes de digestion ou vont avoir plus conscience de problèmes de digestion pendant leur pratique sportive. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour mieux s'observer ou même tout simplement mettre en place des stratégies afin de résoudre ces soucis-là?
Alors là, c'est vraiment la question la plus complexe parce que il y a les troubles digestifs d'effort, c'est vraiment plurifactoriel. Tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être lié à des problèmes de surhydratation ou de sous-hydratation. Ça peut être lié justement à l'impact des foulées lorsqu'on est sur un trail et qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours, où là, on sait que le pourcentage de troubles digestifs augmente de manière exponentielle. Ça peut être lié à une problématique d'électrolyte, c'est-à-dire on apporte trop d'électrolytes, soit pas assez. Ça peut être lié au ravitaillement durant la course, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange durant ma course. Donc, il y a des années en arrière, on proposait encore des sandwichs jambon beurre sur des courses, alors que le tube digestif, il est clairement pas en état de digérer ça. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération par rapport aux troubles que l'athlète rencontre. Mais je dirais que, pour faire le plus simple possible, les gens qui sont très susceptibles d'avoir des troubles digestif durant les courses, il faut limiter l'apport en fibres pendant au moins 2 jours avant la course. Il faut essayer de maximiser son hydratation. Parce qu'on s'est aperçu que même quand pendant la course, on s'hydratait pas énormément, mais qu'il y avait quand même une forme d'optimisation de l'hydratation dans les jours qui précèdent la course. C'est comme si le corps avait fait un petit peu de réserve. Donc, ça peut valoir le coup de faire ça. Après, moi, je vais donner un conseil qui plaira pas à certains de tes auditeurs. C'est de pas faire trop de courses. Parce que trop de courses, trop de sorties égale trop, on multiplie les sources de problématiques digestives, parce que la muqueuse intestinale, elle va mettre du temps, après de gros efforts, à se réparer, se reconstituer. Et donc, si vous multipliez trop souvent les compétitions ou les sorties qui sont un peu traumatisantes pour et les muscles, les articulations, mais également le système digestif, vous multipliez les risques de voir apparaître des troubles de façon récurrente. Et après, il y a la faute à pas de chance. Voilà, vous avez des gens, il y a des gens qui sont suivis par des nutritionnistes et puis on ne sait pas pourquoi, changement d'eau, vous avez l'habitude de boire une certaine eau, puis là vous arrivez dans un village de montagne, vous avez bu l'eau de montagne et vous savez pas pourquoi cette eau-là elle vous convient pas et hop, vous avez la diarrhée.
Et ça peut arriver à tous. En tout cas, tu fais bien de mentionner les sports d'endurance parce que effectivement, c'est une des premières sources d'abandon sur l'ultra-endurance, les troubles digestifs. Comme je te le disais, moi, je suis passé par le triathlon et le triathlon, c'est encore plus traumatisant parce qu'on passe de allongé à une position de pédalage puis une position de course. Donc, effectivement, pour le tube digestif, c'est particulièrement difficile à encaisser, notamment quand le matin on a nagé et qu'on a bu un peu de l'eau du lac ou de l'eau très salée de la Méditerranée. Eh ben écoute, c'est passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, maintenant je comprends mieux comment tu vois certaines personnes peuvent rencontrer des problèmes de fatigue. On a abordé, alors je fais une petite passerelle pour les auditeurs qui veulent creuser un peu plus sur les sports d'endurance. On l'a fait dans un précédent épisode. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Christophe. Maintenant, je comprends mieux effectivement les interconnexions qu'il existe entre la fatigue d'une part et la digestion de l'autre. Je pense qu'on a donné beaucoup de clés, beaucoup d'outils, notamment pour que les athlètes et les personnes qui nous écoutent puissent mieux s'y retrouver et aussi se poser les bonnes questions, parce que souvent, c'est le plus difficile. J'encourage pour ce mot de la fin, effectivement, si vous avez envie de creuser un peu ces problématiques de microbiote, de flore intestinale, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous directement avec une personne de l'équipe NutriPure pour élucider ces questions et tout simplement trouver des réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, on vous met les liens directement en description de cet épisode. Sachez aussi qu'il y a énormément d'informations si vous voulez creuser notamment sur l'alimentation anti-inflammatoire sur le blog de NutriPure. Donc vraiment, allez-y, c'est une mine d'or. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et puis je vous dis au mois prochain pour un prochain épisode dédié à la nutrition sportive. Ciao les extraterriens et salut Christophe.
Eh bien, salut à tous et merci pour votre écoute. Bye bye.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.